France Culture, troisième et dernière nuit spéciale Rouletabille, une série de nuits spéciales consacrées à Rouletabille que nous avons commencé avec Jean-Claude Lamy, auteur d'une biographie, Gaston Leroux ou Le vrai Rouletabille, publiée aux éditions du Rocher, et que nous allons terminer avec vous, Jean-Pierre Bourse. Bonsoir, Jean-Pierre Bourse.
Bonsoir, Philippe Garbi.
Alors, cette nuit, c'est un hasard, cette nuit est très belge, puisque nos invités le sont, en tout cas, puisque nous l'avons commencé avec André-Paul Duchâteau, nous le recevions à minuit, le créateur, donc, avec le Tibet, dessinateur des aventures de Ricochet, journaliste et détective, surtout détective. Alors, André-Paul Duchâteau est belge, il est bruxellois.
Voilà.
Vous êtes liégeois.
Je suis liégeois.
Jean-Pierre Bourse, voilà. Vous êtes avocat?
Je suis avocat, oui.
Votre spécialité, c'est le crime?
C'est le crime fiscal.
Ah, ben ça,
crime fiscal.
C'est
je défends
rien,
les pauvres contribuables contre l'hydre administrative.
Eh bien, figurez-vous, vous êtes écrivain aussi, et c'est Patrick Leroux, petit-fils de Gaston Leroux, que nous avons rencontré la semaine dernière, qui nous avait mis sur votre piste, donc Jean-Pierre Bourse. Il m'avait dit, par téléphone, comme ça au début, en préparant cette émission et notre rendez-vous, vous cherchez des contacts. Eh bien, écoutez, il y a un homme que je ne connais pas, que je n'ai pas rencontré, mais qui vit à Liège et qui prépare une biographie de Gaston Leroux. Alors comment peut-on préparer une biographie de Gaston Leroux quand on habite un pays très proche, mais malgré tout qui n'est pas la France, c'est-à-dire on n'a pas accès à tout. Est-ce qu'il y a une amicale Rouletabille en Belgique? Est-ce qu'il y a une amicale Gaston Leroux? Comment ça s'est passé?
Alors à ma connaissance, il n'y a ni d'amicale Rouletabille, ni d'amicale Gaston Leroux, ce qui est d'ailleurs bien dommage, et on devrait penser à le faire. Le problème en ce qui me concerne, c'est que je suis passionné par Gaston Leroux depuis que mon grand-père, et qui est mort quand j'avais 17 ans, m'a initié au mystère de la chambre jaune, donc vous voyez que ça date, et j'ai lu Gaston Leroux, tout Gaston Leroux depuis lors, et je rêvais depuis de nombreuses années de lui consacrer une biographie. Ce que je pouvais difficilement faire jusqu'à présent, compte tenu de mes autres occupations, le fisc belge étant sans pitié, il fallait bien m'occuper de mes clients avant de penser à autre chose. Et puis, ces dernières années, j'ai disposé d'un peu plus de temps, et je me suis tourné vers les membres de la famille de Gaston Leroux que je pouvais encore éventuellement contacter, qui m'ont aimablement accueilli bien gentiment téléphoniquement ou épistolairement. J'étais voir ce qu'il y avait sur Gaston Leroux à la Bibliothèque nationale. Et j'ai commencé à les relire tous et à relire toute une série d'ouvrages qui lui ont été consacrés. Et je suis à l'heure actuelle en train de commencer à rédiger une biographie de Gaston Leroux.
Alors, une biographie de Gaston Leroux ne peut pas être aussi excitante que la vie de ces personnages. Comment passe-t-on d'un... Parce qu'après tout, bon, quelqu'un qui écrit, c'est formidable, et tant mieux pour nous, parce qu'il reste dans... Voilà, on peut l'aimer longtemps, et pendant des décennies et des siècles, mais il peut avoir eu une vie tout à fait...
Il a eu, d'ailleurs, il est certain, Gaston Leroux n'a pas eu la vie de Chéri Bibi. Il a eu une vie d'homme, je pense qu'on peut le dire, posé, bourgeois, et donc une biographie de Gaston Leroux qui s'arrêterait aux événements de sa vie quotidienne ne devrait pas être passionnante. Mmh. Seulement, Gaston Leroux, ça n'est pas seulement un homme posé et bourgeois, c'est un homme qui avait une imagination absolument extraordinaire, et donc raconter sa vie, c'est aussi raconter la vie d'un homme qui a écrit des romans absolument extraordinaires, tout à fait passionnants, qui était d'ailleurs un homme plein d'humour.
Oui, parce que je dis une vie ennuyeuse, certainement pas.
Elle n'était pas ennuyeuse. Elle pourrait être ennuyeuse pour un lecteur si on raconte sa vie au quotidien, oui. Mais si on fait le tri de ce qui doit l'être, et si on s'arrête à ses écrits, je pense qu'on peut faire de lui une biographie tout à fait passionnante, et c'est ce que je suis modestement en train d'essayer de faire.
Alors, on compte sur vous, donc. Enfin, celle de Jean-Claude Lamy est très agréable.
Très bien.
Et
celle d'Alfie aussi.
Mais alors, vous, qu'allez-vous rajouter? Vous allez... Parce qu'il raconter du nouveau, quand même.
Oui, il faut raconter du nouveau. Et il est vrai qu'il est difficile de trouver du nouveau dans la biographie au sens strict, rigoureusement quotidien de Gaston Leroux. Donc là, je ne pense pas que je vais apprendre grand-chose à ceux qui ont déjà lu les biographies précédentes, qui étaient pourtant très brèves. Là où je voudrais un petit peu et même beaucoup apporté un éclairage un peu particulier, c'est en situant Gaston Leroux dans son époque, en montrant en quoi ce qu'il a apporté était novateur, notamment dans le domaine du roman policier, parce qu'il a fait un coup de génie absolu pour moi avec Le mystère de la chambre jaune, et l'un ou l'autre autre après, mais surtout celui-là. Ce qu'il a apporté de particulièrement intéressant aussi dans le domaine plus général du roman d'aventure ou du roman populaire, avec une influence des gothiques anglais, des romans assez échevelés comme Le Roi Mystère ou La Reine du Sabbat. Et donc, en replaçant Gaston Leroux dans son époque, en expliquant ce qui s'écrivait à cette époque, ce que le roman policier était seulement en train de commencer à devenir au moment où éclatait ce coup de tonnerre du mystère de la chambre jaune, je pense qu'il y a moyen d'intéresser le lecteur et de lui faire comprendre qu'on est en présence d'un écrivain important. Et c'est un peu le point de vue, c'est même tout à fait le point de vue qu'il a adopté.
Mais c'est un grand écrivain de toute manière.
C'est un très
grand écrivain. On ne passerait pas trois nuits avec lui sinon.
Sûrement pas. C'est un très très grand écrivain et j'essaie de démontrer en quoi c'est un grand écrivain, dans quel domaine, pourquoi c'est un grand écrivain, en quoi son style est intéressant, et qui varie, qui peut d'ailleurs varier d'un roman à l'autre, ce qui est assez extraordinaire. Voilà ce que j'essaie de faire.
Vous voulez dire, Jean-Pierre Bourse, qu'il a un style pour ses romans logique, policier, et un autre style pour ces romans plus extravagants, enfin les romans les romans fantastiques ou les nouvelles abominables.
Tout à fait. Gaston Leroux a commencé d'ailleurs par écrire un roman qui n'a jamais été publié, et je pense que ça, c'est parce qu'il s'est rendu compte que il n'aurait pas trouvé d'éditeur. Un roman qui s'appelle Ton maître, qui est un roman relativement autobiographique. Et qui est écrit dans un style totalement décadent. C'est de l'œil semence, c'est du Lion Blois, c'est un style qui est chargé d'adjectifs multiples, et qui est tout à fait fin de siècle. C'est vraiment un style fin de siècle. Il est tout à fait extraordinaire de constater que cet écrivain, qui va très peu de temps après écrire Le mystère de la chambre jaune, va adopter un style qui est d'une limpidité, d'une clarté, d'une rigueur absolument extraordinaire pour les besoins de la démonstration de son roman. Et il va retrouver par après, dans des romans plus échevelés et plus gothiques, comme par exemple La Reine du Sabbat, Chéri Bibi, Le Roi Mystère, un style qui, de nouveau, va être un style non pas décadent, non pas le style de ton maître, mais un style beaucoup plus chargé d'adjectifs à la Victor Hugo, beaucoup plus emphatique. C'est tout à fait extraordinaire. Je trouve qu'il y a là une sorte de malléabilité et de faculté d'adaptation dans le style de Gaston Leroux qui est tout à fait fascinant quand on lit ses romans.
C'est une littérature populaire au sens où elle est extrêmement lue, elle est éditée d'abord, enfin elle est publiée dans les journaux, les fascicules ensuite quand le feuilleton est repris
en romance, c'est
formidable, enfin, il y a des ventes extraordinaires, il y a le cinéma, donc on le sait, s'empare très vite, et lui s'empare aussi très vite du cinéma. Oui. C'est, en tout cas, c'est l'impression que l'on a quand on lit ces articles ou des écrits ou une correspondance, disons, Jean-Pierre Bourse, c'est que c'est jamais un auteur qui a détester ou ces personnages, enfin qui détestait, en tout cas qui a regretté de ne pas avoir fait de la prétendue grande littérature.
Il n'a, au contraire de certains de ses concurrents, disons, comme par exemple Maurice Leblanc ou même Gustave Le Rouge, Gaston Leroux n'a jamais prétendu écrire du Flaubert ou du Maupassant. Il n'a jamais eu le moindre regret de se consacrer, comme il a fait, exclusivement à la littérature populaire. Il l'a d'ailleurs défendu très bien dans un article qui est paru dans Le Petit Niçois en réponse à Marcel Prévost, qui s'en était pris au roman populaire en disant un peu vaniteusement, moi je fais du roman psychologique, ça c'est de la grande littérature, le roman populaire, le roman d'aventure, c'est très peu de choses. Et Gaston Leroux lui a répondu avec beaucoup d'esprit d'ailleurs, ne méprisez pas le roman d'aventure, Stendhal a écrit des romans d'aventure qui étaient tout à fait extraordinaires, et donc avec vos romans psychologiques, vous n'avez absolument rien à nous apprendre. Et donc Gaston Leroux n'a jamais regretté ces personnages de Rouletabille, de Chéri Bibi, n'a pas su te faire mourir comme Leblanc a fait avec Arsène Lupin, même Gustave Le Rouge.
Arsène Lupin n'est jamais mort, non, Sherlock Holmes, Conan Doyle
Arsène
a voulu
Lupin
tuer.
Jamais, oui, pardon, non. Conan Doyle a fait mourir Sherlock Holmes, mais pas. Mais enfin,
il l'a ressuscité aussi.
Il n'empêche que Maurice Leblanc, sans faire mourir Arsène Lupin, regrettait de devoir continuer à en écrire alors qu'il souhaitait faire du Maupassant. Et donc, vous avez là quelqu'un qui n'est pas du tout un auteur heureux d'écrire des romans populaires. Alors que Gaston Leroux en écrivait, et en écrivait qui en avait une telle qualité qu'ils peuvent être considérés comme d'excellents romans. Il a aussi sacrifié à certaines dérives du roman populaire qui est d'écrire des suites, de réutiliser le même héros, mais sans jamais en abuser. Il y a quelques épisodes de Rouletabille, il y a 5 épisodes de Chéri Bibi, mais il n'a pas abusé de ses personnages comme certains écrivains populaires l'ont fait, qui écrivaient épisode sur épisode, Fantomas, Rocambole. Donc c'est un grand écrivain du populaire.
Il n'est pas non plus allé à la ligne, parce qu'il peut y avoir une écriture journalistique, enfin feuilletonesque en tout cas, qui fait que vraiment on vend de la ligne.
Il n'a pas fait comme Dumas, il ne tirait pas à la ligne en prolongeant inutilement des dialogues. On ne sent pas du tout ça chez lui.
Enfin, en même temps, Dumas, voilà.
Dumas écrit des chefs-d'œuvre, même s'il tire à la ligne.
Oui. Bon. Et lui et Gaston Leroux les écrivaient seuls, ces romans.
Gaston Leroux travaillait seul.
Vous savez comment il travaillait? Parce que donc, quand on écrit Jean-Pierre Bourse, quand on prépare une biographie d'un auteur, je pense aussi que c'est quand même un travail d'exégèse. Enfin, en tout cas, on s'intéresse à la naissance d'une œuvre.
Alors, on sait très bien comment travaillait Gaston Leroux, parce que il a laissé quelques textes qui le précisent. Il travaillait 3 mois sur un roman. Il se donnait d'abord quelques semaines, un mois ou deux de congé, je crois, entre le roman précédent et le suivant. Et puis, il commençait à travailler à son nouveau roman, en prenant les notes nécessaires, et puis en commençant à l'écrire. Et il dit d'ailleurs lui-même qu'il écrivait mieux quand il se sentait poussé par une échéance. Je travaille, dit-il, sur traité, sur contrat. Pourquoi ? On sent le journaliste là derrière qui était obligé d'écrire un article rapidement et de l'envoyer à son journal. Et Gaston Leroux, écrivant un roman, écrit plus vite et sans doute avec une inspiration qui est plus fiévreuse quand il sait qu'il doit avoir terminé pour une date bien précise, parce que son éditeur ou l'éditeur du journal lui dit « ça doit être fait, attention, il nous faut absolument vos dernières pages ». Et donc, il travaillait d'une part de cette manière-là, et d'autre part, il travaillait chez lui, ça a été à Nice la plus grande partie de sa vie. Et ceci est amusant à relever, il y avait un silence complet dans la maison lorsque papa Leroux travaillait à son roman, mais lorsque il avait terminé, il allait sortir son revolver qui était chargé, il tirait des coups par la fenêtre, la maison était prévenue, le roman était terminé, c'était liesse dans toute la maison, on frappait sur les casseroles, on débouchait le champagne, et donc il avait une façon bien à lui, finalement très rythmée, mais en même temps très joyeuse, d'écrire ses romans.
On parle d'un homme, tous les gens qui l'ont connu, rencontré, croisé, parlent d'un homme avec une bonhomie, un embonpoint. C'est sa marque physique la plus évidente, comme ça, oui. C'est le bon vivant.
Le bon vivant, très affable, assez rond, disons-le, rond physiquement, rond parce que il aimait l'humour, il avait beaucoup d'amis, il avait beaucoup d'humour d'ailleurs, beaucoup de jeux d'esprit, il aimait composer des poèmes d'occasion pour n'importe quel événement. C'était donc un personnage qui était extrêmement agréable à vivre. C'était pas du tout un chevalier à la figure un peu sinistre comme pouvait l'être Maurice Leblanc. C'était un grand plaisantin. Il a fait beaucoup de plaisanteries diverses dans sa famille, à ses amis. Et il avait un petit défaut, un petit gros défaut, c'est qu'il était joueur. Il était joueur. C'était un joueur invétéré qui a joué des sommes manifestement très importante dans divers casinos. Mais voilà, c'était
le
revers de la médaille.
D'Azur, ouais, entre autres. Oui. Mais il écrit le 7 de trèfle aussi.
Il a écrit le 7 de trèfle qui fait référence effectivement à son vice. Oui.
Alors Jean-Pierre Bourse, donc vous allez travailler, vous allez aller voir les cartons des uns et des autres de la famille. Vous êtes allé à la Bibliothèque nationale. Il y a aussi, je sais pas, la Bibliothèque de l'Arsenal peut-être pour les oui, pour les pièces, passer, pour le théâtre. Il faut que vous y passiez. Oui. Il y a sans doute des lectures ou des correspondances qui existent. Enfin, il faut que vous trouviez aussi les gens qui en ont parlé, enfin, qui l'ont croisé. Alors, on connaît la préface de Cocteau pour Le mystère de la chambre jaune. Mm-hmm. C'est un des premiers grands admirateurs du roman. Peut-être l'avait-il lu en feuilleton dans la presse. Quels sont les noms comme ça qui ont pu vous surprendre au cours de vos recherches et renvoyant des admirations étonnantes?
Beaucoup, beaucoup. D'abord, Cocteau, mais les surréalistes. J'ai découvert récemment, en feuilletant les œuvres de Paul Éluard dans la Pléiade, qu'un poème de Paul Éluard porte dans son titre le nom de Gaston Leroux. Et donc, il est connu que Gaston Leroux était apprécié par les surréalistes. En voilà un exemple. Paul Éluard notamment, André Breton aussi. On trouve beaucoup de témoignages de personnes qui ont beaucoup admiré Gaston Leroux. L'un des premiers auxquels il faut penser, c'est Agatha Christie, parce qu'on peut revenir quand même sur le fait que le roman policier existait à peine au moment où paraît Le mystère de la chambre jaune, et que Gaston Leroux écrit le chef-d'œuvre dans le sous-genre qu'est le mystère du crime commis dans une chambre close, avec cette fameuse histoire de chambre jaune. Et Agatha Christie n'a jamais caché, et dans sa biographie, et dans un de ses romans qui s'appelle Les Pendules, l'admiration qu'elle éprouve pour le mystère de la chambre jaune.
C'est Hercule Poirot, là, qui admire,
Dans Les Pendules, c'est Hercule Poirot, effectivement, qui fait une petite tirade comme ça sur le mystère de la chambre jaune. Et donc, on commence par Agatha Christie, mais on a toute une série de personnes qui ont fait valoir l'admiration dans laquelle il tenait les œuvres de Gaston Leroux.
Ah, il y a John Dixon Carr aussi, qui par la suite a écrit des dizaines et des dizaines d'histoires de meurtres en chambre close.
Il était un grand spécialiste du crime commis en chambre close, John Dixon Carr. Oui. Et alors, il y a toute une série d'anthologies qui ont été écrites par La Courbe, où l'on retrouve des histoires de crimes commis en chambre close par divers écrivains.
Paul Alter, il me semble. Paul Alter avait écrit beaucoup de choses comme ça.
Oui,
l'admiration lui à John Dixon Carr.
Oui, il y en a toute une série. Mais John Dixon Carr est vraiment celui qui s'est spécialisé dans ce genre. Et tout le monde a fait preuve de beaucoup d'imagination. Mais je continue à penser que le chef-d'œuvre, au niveau de l'explication, c'est Le mystère de la chambre jaune. Pour une raison, notamment. C'est que le roman est à ce point intelligemment structuré que l'on est amené à découvrir l'explication progressivement, notamment par le biais de ces fameuses phrases en italique que Leroux de temps en temps se met dans ses romans, « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat », qui est une phrase qui amène peu à peu à découvrir la vérité dans cette histoire. Et lorsque l'on relit Le mystère de la chambre jaune, on est vraiment étonné par la façon dont il a réussi à structurer son récit, d'abord pour qu'il soit passionnant à tout moment, parce qu'il a quand même été publié en feuilleton, donc il fallait qu'il sacrifie à la technique du coup de théâtre régulier, d'une part, et d'autre part, il réussit à faire progresser le lecteur dans une découverte de l'énigme que je trouve tout à fait particulière et vraiment extrêmement réussie. Il n'a d'ailleurs pas, à mon avis, par après, il a réessayé. Il n'a pas réussi à faire aussi bien, même si le parfum de la Dame en noir est une petite merveille aussi, mais il y a déjà du fantastique qui commence à apparaître dans le deuxième. Il n'a jamais réussi à faire aussi bien que le premier.
J'avouais à Patrick Leroux la semaine dernière avoir commencé seulement, et donc j'ai un petit peu avancé depuis, mais la lecture du Secret de la boîte à thé qui est dans chez Omnibus, il y a le fantôme de l'opéra, le roi mystère et le secret de la boîte à thé. Alors ne m'en parlez pas parce que j'ai avancé mais je n'ai pas terminé. Il y a aussi des histoires de meurtres, en tout cas qui ont l'air de meurtres en chambre close. Ne me dites surtout pas, ne me dites rien en fait, tenez Jean-Pierre Bourse, parce qu'on a envie de, quand on aime une œuvre comme ça et qu'on est en train de la lire, on n'a pas envie que...
Je ne vais donc rien vous dire du Secret de la boîte à thé.
Vous serez très gentil.
Autrement titré Pouloulou, qui est d'ailleurs été publié à titre posthume, mais qui contient des choses bien intéressantes, notamment aussi du côté du crime commis dans une pièce fermée, que l'on retrouve dans plusieurs romans de Gaston Leroux.
Et d'ailleurs, il y a un personnage, vous parliez tout à l'heure de Stendhal, d'une réponse de Gaston Leroux à Marcel Prévost, dont on lit peu finalement Marcel Prévost, on lit peu les romans.
Encore,
les Demi-Vierges,
le roman,
c'est ça ?
Oui, Les Demi-Vierges, voilà, qui est son roman le plus connu. J'ai vu qu'il avait été réédité. Je me le suis procuré, je vais quand même le lire, mais c'est de la littérature psychologique sous Bourget qui me paraît quand même largement dépassée.
En tout cas, dans Le Secret de la boîte à thé, en tout cas en début, il me semble qu'il y a un personnage assez stendhalien, ce jeune homme qui s'appelle... Comment s'appelle-t-il, Fabien, Florent, enfin qui est précepteur là, qui
arrive. Ah oui, le précepteur,
voilà.
Oui.
Hein, c'est
oui.
Un petit Julien Sorel, non, peut-être.
Oui.
Bon. Alors j'ai demandé aussi la semaine dernière Jean-Pierre Bourse à Patrick Leroux, donc le petit-fils de Gaston, notre ami Gaston Leroux, de me dire qui il verrait, quel est l'auteur, femme ou homme, qui pourrait aujourd'hui donner une suite à des, enfin pas une suite, mais de donner de nouvelles aventures de Joseph Rouletabille, puisque nous sommes dans la célébration de Rouletabille. Vous-même, Jean-Pierre Bourse, vous pensez à quelqu'un, à des auteurs belges, français, russes ?
Vous me posez une colle. J'ai vu qu'il vient de sortir une nouvelle aventure...
Au printemps dernier, oui,
d'Arsène Lupin. Je ne l'ai pas encore lu. Je me méfie toujours de la réexploitation de personnages célèbres par d'autres auteurs. On vient de faire un James Bond l'an dernier, il y a un an, mais c'est un grand écrivain qui s'y est mis. Il faudrait vraiment un écrivain particulièrement doué dans le domaine du policier, qui ait une belle plume, pour qu'on ait envie de lire aujourd'hui une aventure de Rouletabille qui n'ait pas été écrite par Gaston Leroux. Alors à qui pourrions-nous penser ? Je suis bien en peine. Je n'oserais pas avancer un nom parce que si jamais c'était lui qui l'écrivait et qu'on était déçu, on viendrait dire
c'est de la faute.
Quelle idée d'avoir
Jean-Pierre Bourse.
Quels sont d'ailleurs je ne connais pas bien les écrivains de romans policiers, parce qu'aujourd'hui le roman policier a évolué vers le thriller. Vers le roman noir à l'américaine. On ne trouve plus vraiment des romans structurés sous la forme tout à fait classique du roman policier. John Dixon Carr avait fait du bon travail, mais je ne le vois quand même pas écrire un Rouletabille. De toute façon, il est mort suffisamment longtemps.
Suffisant pour l'empêcher de le faire.
Oui. J'aimerais mieux qu'on écrive rien sur Rouletabille. Admiration pour lui que je préférerais qu'il reste tel qu'il est.
Vous, en tout cas, Jean-Pierre Bourse, vous écrivez sur Gaston Leroux, et donc c'est une biographie qui est en train de s'écrire. Quand est-ce qu'on va la lire?
Écoutez, j'ai écrit à l'heure actuelle une petite centaine de pages, et je suis arrivé au moment où son premier roman va paraître. Il faut dire que Gaston Leroux, et l'avocat que je suis, trouvait beaucoup d'intérêt à en tenir compte. Gaston Leroux a été avocat, a été journaliste, avant d'être écrivain. Il a été avocat et journaliste en même temps, et puis il a été journaliste et écrivain en même temps, mais il avait quand même 30 ans passé, sauf erreur, en tout cas lorsqu'est sorti Le Mystère de la Chambre Jaune. Il y avait deux romans de lui qui étaient parus avant cela, notamment La Double Vie de Théophraste Longuet. Et donc je suis arrivé à l'heure actuelle à la fin de sa période journalistique, qui est d'ailleurs passionnante. Mais passionnante. Il a été un très grand journaliste, d'abord un chroniqueur judiciaire, ce qui pour un avocat était évidemment une bonne façon de gagner un petit peu d'argent, parce que le métier d'avocat n'a pas passionné. Il a été un excellent chroniqueur judiciaire, chroniqueur mondain, chroniqueur théâtral. Et puis, il est passé grand reporter. Et donc, il a été envoyé, effectivement, en Russie, au Maroc, et dans divers endroits du monde. Il a été aussi rencontré les gens qui revenaient du pôle Sud pour les interroger sur leurs mésaventures. C'est passionnant. C'est passionnant parce que on voit un écrivain qui évolue progressivement.
Ben on attend avec impatience cette biographie, Jean-Pierre Bourse. Et on se retrouvera en fin de nuit. Mais d'ici là, on va entendre donc la suite du feuilleton. On écoutera aussi une émission consacrée à Chéri Bibi. Et la toute fin du feuilleton est là. Alors voilà, les auditeurs enfin sauront qui a fait quoi.